Radio Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Bunia. Voici le titre de votre journal. En Ituri, 6 membres de la task force composée des anciens seigneurs de guerre de cette province ont été pris en otage hier mercredi par des miliciens de la CODECO. C'était pendant une réunion pour sensibiliser les leaders de ces groupes armés à déposer les armes. Au Congo central, le maire de la ville de Boma met en garde les étudiants qui s'inscrivent dans les établissements d'enseignement supérieur non viables et interdits de fonctionner. Marie-Josée Nyongo-Swami rappelle que la mesure du ministre des tutelles portant fermeture de ces établissements n'est pas encore abrogée. L'invité de ce journal est Christian Moulindois, un ex-enfant soldat qui a passé plus de 2 ans dans les rangs d'un groupe armé. Il interpelle le gouvernement et ses partenaires à s'assurer de la réinsertion socio-économique des enfants sortis des groupes armés. En Ituri, 6 membres de la task force, cette délégation composée des anciens seigneurs de guerre de l'Ituri, dépêchés par le président de la République et 2 autres personnes, ont été prises en otage mercredi par des miliciens de la CODECO. C'était pendant une réunion qui se tenait au camp Yalala, proche de Bambou, à 45 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou, pour sensibiliser les leaders de ces groupes armés à déposer les armes. Selon des sources concordantes, les tractations sont en cours pour obtenir leur libération. D'autres détails avec Isaac Remoyopi.
Cette délégation d'une dizaine de personnes s'était rendue mardi à Kobu pour encourager le retour de la population qui avait fui les atrocités des groupes armés. Ensuite, elle a tenu un meeting populaire à Bambou avant de rencontrer mercredi un groupe de miliciens de la CODECO au camp Yalala à 2 km du centre commercial. 8 membres de la délégation ont été pris en otage, dont le coordonnateur Thomas Lubanga, son adjoint Floribert Ndjabou, le général des FARDC Germain Katanga. Parmi ces otages, il y a aussi 2 colonels, le professeur Dechouvi et le président de l'INADI, structure qui regroupe toutes les communautés de l'Ituri. Ces otages ont été conduits au bastion de cette milice à Goutsi. Selon les porte-parole de la task force, ces miliciens justifient leur action par les soucis de mettre à l'abri ses membres pendant les bombardements de l'armée hier mercredi contre des positions de la CODECO, Pichu Iribi.
Selon les miliciens, c'est à la suite d'un bombardement que les membres de la task force, à l'exception du porte-parole et des 2 journalistes, ont été extraits pour être mis à l'abri, de sorte qu'ils ne soient pas rentrés depuis hier. Toutes les informations reçues de ces éléments de CODECO rassurent que les membres de la task force sont bel et bien vivants et bien portants.
Selon des sources de sécurité, des tractations sont en cours pour obtenir leur libération. Bounia, Isaac Remoyo, Radio Okapi.
Les leaders de la milice CODECO conditionnent la libération des membres de la task force par le respect de leur cahier de charges par le gouvernement. Isaac Remoyope revient encore une fois sur les sensibilisations, sur les revendications de ces groupes armés.
C'est depuis 2017 que la milice CODECO est active en Ituri. Elle est actuellement divisée en 6 factions au moins qui commettent des exactions dans les 3 territoires d'Irumu, Djougou et Mahagi. Les principales revendications de ces groupes armés sont notamment le cessez-le-feu pour permettre les négociations avec le gouvernement, l'intégration de ces combattants au CDFARDC et leur prise en charge intégrale pendant les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Ces groupes armés exigent également la libération de tous les détenus membres de cette milice qui sont incarcérés à la prison centrale de Bounia et celle de Makala Kinshasa, mais aussi la levée de l'état de siège qui, selon ses leaders, est une mesure qui vise à combattre cette milice qui pourtant avait donné son accord aux anciens seigneurs de guerre envoyés par les chefs de l'état pour déposer les armes. Les leaders de cette milice sollicitent également l'implication directe du président de la République pour le rétablissement d'une paix durable en Ituri. Pour rappel, certaines factions de ces groupes armés coalisent avec la milice FPIC, Force Patriotique Intégrationniste du Congo. Ils sont accusés d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme, dont les meurtres, les enlèvements, les incendies des maisons et les déplacements des milliers de populations civiles. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, l'organisation Alerte Internationale déplore la persistance des conflits intercommunautaires dans la partie est de la RDC. Les directeurs généraux de cette organisation s'engagent à porter sa voix à l'échelle internationale sur cette problématique des conflits à répétition. Nick Elay s'est exprimé ainsi lors de son récent passage à Bukavu il y a 2 jours. On l'écoute au micro de Rachel Kessembangou.
La situation au Congo de l'Est est très préoccupante. Nous avons une grande équipe ici qui travaille sur la construction de la paix, mais la violence monte dans les provinces. Et je voulais voir moi-même les tendances, l'implication aussi des États régionaux, comprendre un peu mieux la situation. Je pense que le monde a un peu perdu le conflit au Congo de vue. C'est un conflit qui a déplacé des millions de personnes, c'est un conflit qui pèse sur toutes les communautés, mais qui n'est pas à la une de l'ordre du jour international. Et je voudrais pouvoir rentrer du Congo et porter ma voix, mon plaidoyer sur le plan international pour que l'attention soit plus focalisée sur le conflit au Congo de l'Est. Nous faisons la construction de la paix avec les communautés. Nous travaillons par exemple avec des femmes qui font le commerce transfrontalier entre le Burundi, le Rwanda et le Congo. On travaille avec 12 000 femmes qui sont souvent assujetties à la violence, qui ont du mal à traverser les frontières, mais qui sont aussi des personnes qui peuvent dialoguer, qui peuvent nouer des relations entre des communautés différentes d'autres parties de la frontière. Et on a réussi avec ces femmes à améliorer leur revenus, mais aussi à changer des perceptions d'autres communautés par les dialogues.
Au Congo central, je le disais au sommaire, le maire de la ville de Boma met en garde les étudiants qui s'inscrivent dans les établissements d'enseignement supérieur non viables et interdits de fonctionner en RDC. Dans un communiqué officiel rendu public hier mercredi, Marie-Josée Nyongonswami rappelle que la mesure portant fermeture des établissements d'enseignement supérieur non viable prise par le ministre des tutelles dans sa note circulaire du 20 décembre 2021 n'est pas encore abrogée. Les détails avec Nana Plurich-Mambou.
Dans ses communiqués dont le maire de la ville de Boma a réservé copie pour information aux membres du conseil urbain de sécurité, aux bourgmestres, aux chefs des quartiers, au conseil urbain de la jeunesse ainsi qu'au cadre des concertations de la société civile tous à Boma, Marie-Josée Nyongonswami dit avoir remarqué et rappelle au public que certains établissements d'enseignement supérieur et universitaire déclarés non viables, fermés et interdits de fonctionner au pays, y compris dans la ville de Boma, sont malheureusement en plein exercice sans documents contraires délivrés par l'autorité des tutelles. Dans ces mêmes documents, Marie-Josée Nyongonswami, en tant que cadre territorial, se reconnaît incompétente de réguler le fonctionnement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Cependant, cette dernière invite les étudiants et leurs parents à ne pas se faire flouer et à prendre soin de se faire inscrire dans les structures reconnues viables par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. À cet effet, Marie-Josée Nyongonswami, maire de Boma, interdit préalablement des troubles à l'ordre public le moment venu, car les diplômes que délivreront ces institutions non viables ne seront pas reconnus. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
L'IGF Jules Alinguété accepte d'accompagner et d'encadrer la gouvernance financière de la CENI. Il a fait savoir à l'issue d'une séance de travail qu'il a eu hier mercredi avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Selon l'IGF, cet encadrement fait suite à la demande du bureau de la CENI depuis 3 mois. Des détails avec vous, Jeff Ngoy.
Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF au profit de la centrale électorale de notre pays sur les opérations financières. Nous avions été saisis par le bureau de la CENI qui avait souhaité avoir un accompagnement de l'IGF, mais à l'époque, compte tenu de tout ce que nous avions comme travail à faire, nous avons convenu de le faire un peu plus tard, déclare Jules Alinguété. D'après ce dernier, au regard de l'actualité brûlante, Denis Kadima a réitéré rapidement sa demande pour que cet accompagnement se fasse maintenant dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières de la CENI. Les deux personnalités, indique l'IGF, ont eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission. À cet effet, Alinguété rappelle que la loi portant organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes procède à un audit interne en vue de faire rapport au Parlement et au Président de la République. Mais pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement afin d'organiser les élections, le bureau de la CENI souhaite donc se faire régulièrement accompagner par l'IGF.
Et puis, le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, accuse le président de cette institution de refuser de signer son autorisation de sortie pour des soins à l'étranger. Il a exprimé dans une lettre déposée auprès de ses services le 16 février. Babel Mpongo Massimango.
Jean-Marc Kaboun rappelle à Christophe Mbosso que le fait de ne lui avoir pas octroyé l'autorisation de sortie jusqu'à présent, malgré son rapport médical mis à sa portée pour éclairer sa lanterne, s'apparente à une violation délibérée du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, cela en son article 109, alinéa 5, qui stipule que le député national a droit à l'évacuation sanitaire pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge, accompagnés de médecins et d'un garde-malade s'il échait. Dans la même lettre, le député rappelle à Christophe Mbosso de respecter sa parole donnée après des échanges entre les deux personnalités. Jean-Marc Kaboun se plaint auprès du président de la Chambre basse du Parlement que sa requête est restée sans suite. Enfin, il fait remarquer qu'aucune mesure, qu'elle soit du bureau de l'Assemblée nationale ou de toute autre autorité, ne peut avoir pour effet de porter atteinte au droit de libre circulation du député.
Et puis, cette alerte du directeur général adjoint de la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima S.A., dans la province du Maniema, qui interpelle la conscience des habitants de Kalima et ses environs. Ces habitants se livrent dans la destruction des installations de la centrale hydroélectrique des Rutshuru-Kuru pour des raisons de recherche des soi-disant trésors cachés. Célestin Omar Ishami fait savoir que ce phénomène n'est qu'un mythe et ça ne sert à rien de détruire cette centrale qui constitue un patrimoine commun. Il explique au micro de Florence Kizalunga.
En fait, la population ou certains inciviques se permettent d'aller chercher des soi-disant trésors cachés en détruisant les installations de la centrale hydroélectrique de Rutshuru-Kuru. Ils se livrent à casser les constructions qui ont été faites à la recherche des soi-disant trésors cachés. Et ça, c'est une situation déplorable qu'on détruit pour des histoires qui n'existent pas. Les Belges qui ont construit cette centrale-là, qu'est-ce qui lui a empêché de prendre son or ou son mercure et partir avec? Il n'y a rien qui a empêché les Belges. Les Belges n'étaient pas aussi bêtes pour creuser des trous et mettre dans des bétons 60 ans, 62 ans après et qu'ils n'aient jamais revenu pour chercher ça et que nous détruisons cette centrale-là pour soi-disant récupérer des trésors cachés. Cette centrale-là est un patrimoine national très important pour la société et pour toute la population parce que cette centrale-là dessert également la ville de Kindu en énergie électrique.
Il se tient à Bruxelles du 17 au 18 février le 6e sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Ce sommet a pour but de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre les deux institutions et qui bénéficie d'un engagement politique au plus haut niveau. À ce sujet, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a tenu le 15 février une conférence de presse à Bruxelles pour, dit-il, interpeller les dirigeants européens et africains à s'unir pour lutter contre le réchauffement climatique. Adolphe Mouzito, dans cet extrait choisi par Fulbert Balolagui.
Il y a un article sur une revue, la revue mondiale sur l'énergie verte, et qui dit que d'ici à l'horizon 2050, il faut que l'humanité produise 700 millions de tonnes d'hydrogène pour qu'on ne mette pas plus de 1,8 degrés Celsius qui va perturber l'atmosphère. L'Europe ne peut produire à cet horizon que 10 millions de tonnes. Vous voyez, c'est exagérant. Le Congo à lui seul, 10 millions aussi. Mais il faut atteindre 700 millions. Il n'y a que l'Afrique qui peut permettre la production de cette énergie. Et je voulais l'énergie. Nous avons l'amortisseur qui est la forêt équatoriale. Mais surtout, nous, au Congo en particulier, nous avons beaucoup de cours d'eau, y compris les fleuves, qui représentent plus ou moins 44 000 mégawatts, qui permettent de produire l'électricité nécessaire à la production de l'hydrogène, qui est en fait une électricité verte dont l'Europe a besoin. Donc c'est ce partenariat-là qui va sauver l'Europe et le monde entier.
Actualité internationale.
L'Union européenne a décidé il y a quelques jours la levée des sanctions budgétaires prises contre le Burundi il y a 5 ans pour de graves violations des droits humains dans le pays. On est alors au plus fort de la crise née en 2015 de la décision du président de l'époque, défunt Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat au grand dam des organisations des droits de l'homme. La Russie mène des exercices conjoints avec la Biélorussie à quelques kilomètres de la frontière nord de l'Ukraine. Minsk a promis que tous les soldats russes déployés sur son territoire dans le cadre de ses manœuvres quitteraient le pays à la fin prévue de ses exercices le 20 février prochain. Kiev a augmenté le nombre de gardes frontières et surveille plus étroitement les régions frontalières. C'est le cas dans la région de Tchernihiv, première ville sur la route venant des frontières russes et Biélorussie.
L'invité
de ce journal est Christian Moulindois, un ex-enfant soldat qui a passé plus de 2 ans dans les rangs d'un groupe armé. Il interpelle le gouvernement et ses partenaires à s'assurer de la réinsertion socio-économique des enfants sortis des groupes armés. Il s'entretient avec Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Bien, monsieur Christian Molinda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Tu as fait l'armée comme Kadogo, c'était à quel âge? Comment c'était arrivé que tu sois enrôlé de force dans l'armée cette fois-là?
À l'époque, j'avais encore 12 ans parce que je revenais juste de l'école. Je faisais la 6e primaire. Puis ces gens, parce qu'ils étaient dans notre village à Nyangezi, ils m'ont récupéré. Ils m'ont dit non, vous pouvez nous aider pour nous faire arriver notre fagot à là où nous sommes. Et c'est comme ça que je suis parti parce que je n'avais pas de choix. J'ai fait des alas.
Alors, comment est-il arrivé que tu sortes de là?
C'était toujours... Avec le programme de démobilisation, notre groupe armé a été sensibilisé de libérer des enfants. Et le commandant a cédé, il a accepté. C'est comme ça qu'on nous a confié au centre du BVS. On l'appelle un centre de transit et d'orientation. Et c'est là où on a été encore de nouveau appris comment vivre en société, comme civil, parce que là, on était déjà militaire. Et c'est comme ça qu'on a commencé les études. J'ai obtenu mon diplôme d'État et puis actuellement, je suis déjà dans la communauté.
Décris-nous un peu la vie au centre. C'était combien de temps que tu as passé au centre de transit et d'orientation? Et qu'est-ce qu'on t'a appris pour effacer peut-être ce que tu voyais en brousse là?
Oui, au centre, c'est normal. C'est autour de 3 mois si vous retrouvez votre famille facilement. Comme moi, ma famille n'était pas du tout loin. J'ai fait ne fût-ce que 3 mois. Et ce qu'on nous apprend dans les centres, c'est de vivre encore avec les autres. Donc, c'est comprendre qu'on revient dans la vie civile et qu'on doit donc vivre avec d'autres jeunes du quartier, d'autres jeunes de la communauté, et qu'on doit laisser d'être barbares parce qu'il y a des encadrés qui nous encadraient, qui nous prenaient comme leurs enfants.
Alors, Christian est sorti, il a fait les études, il a eu le diplôme d'État. Et après le diplôme, quelle vie tu as embrassé maintenant? Tu fais quoi?
Après le diplôme, nous nous sommes dit qu'il fallait créer une organisation appelée Coopérative des personnes victimes de guerre dans les Grands Lacs. Et c'est là où elle est en tout cas composée en grande majorité par des ex-enfants soldats. Le but principal était montrer aussi à la face du monde, à la communauté congolaise, dans la société où nous vivons, que les jeunes, après avoir fait l'armée, bien qu'ils ont fait l'armée involontairement, mais ils sont aussi capables de faire quelque chose. Mm-hmm. Et donc, la force qu'on utilisait là par contrainte, c'est nous avons cette force, nous sommes dit que nous pouvons faire des travaux, et c'est comme ça que notre organisation actuellement, nous encadrons donc des jeunes, oui. En coiffure mixte par exemple, il y a un centre pour l'informatique, il y a un centre pour la fabrication des gouttières et des braseros, et nous encadrons même les mamans au sein des AVEC pour leur autonomisation financière.
C'est combien anciens enfants soldats dans votre organisation? Vous êtes à combien?
En tout cas, chez nous, c'est autour de 75 jeunes.
Vous avez des moyens pour faire tout ça ou vous êtes appuyé?
Actuellement, nous ne sommes pas en tout cas appuyés. Nous avons commencé petit à petit parce qu'il y avait une vision pour que nous nous encadrons nous-mêmes. En tout cas, nous ne pouvons que demander à tout un chacun, des organisations, même des personnalités, des personnes de bonne volonté, de nous venir en aide parce que c'est un travail qu'on ne peut pas faire tout seul.
Et pour terminer, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais, vous qui êtes sorti, qui avez accepté de vivre dans la vie normale, la communauté?
Bon, moi, j'ai lu la résolution 2250 qui parle de la jeunesse. Avec son 5 piliers, il y a la 5e pilier qui parle de la réinsertion économique de ces enfants qui ont fait l'armée. Moi, je pense que c'est là où nous pouvons, en tout cas, à travers cela, que le gouvernement est demandé d'accompagner ces jeunes. Et donc, nous demandons au gouvernement congolais, avec le programme de démobilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion
DRC,
communautaire, oui. Nous demandons en tout cas à ce qu'on puisse tenir compte de la part aussi des enfants qui ont fait l'armée. Parce qu'il y en a ceux qui vagabondent partout là parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Il y a même des travaux comme des cantonniers qu'on peut leur accorder à ces jeunes. Il y a beaucoup de travaux. Si en tout cas il y a quelqu'un qui peut plaider de leurs problèmes, en tout cas il peut y avoir une solution.
Christian Molindoa, merci.
Je vous remercie aussi.
Cet ex-enfant-soldat Christian Moulindois était notre invité. Fin de ce journal, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez continuer à le réécouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.